Et ce sont des bruits de bottes qui font floc 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 floc, puisque la Chine est-elle en train de s'installer dans le Pacifique Sud? C'est la question posée par la presse australienne cette semaine au sujet de l'archipel de Vanuatu. Bonjour Sébastien Collin.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone avec nous depuis Hong Kong, maître de conférence à l'INALCO, détaché au CEFC, Centre d'études françaises sur la Chine contemporaine. Vanuatu, c'est 12 000 km² à 2 700 km de l'Australie. La ministre des Affaires étrangères, Julie Bishop, y était la semaine dernière pour découvrir, avec surprise par la presse, un accord apparemment en conclusion pour des infrastructures et une base militaire chinoise dans l'archipel, première pierre d'une extension plus large dans cette zone sous influence. L'épisode témoigne en tout cas de la percée diplomatique chinoise avec 8 états insulaires du secteur. C'est ce que vous expliquez dans un article sur la politique de la Chine dans le Pacifique Sud, dans un ouvrage qui vient de paraître, l'Océanie convoitée. Nouvelle géostratégie chinoise donc, avec une rivalité directe sino-américaine atténuée, des intérêts maritimes bien compris aussi et planifiés dans la zone, et une opposition qui se dessine entre un espace indo-pacifique dont on a beaucoup parlé et un Pacifique Sud contrôlé par la Chine, un jeu à plusieurs bandes, on le voit. Alors à quelle réalité cela correspond-il aujourd'hui? Zone stratégique, je le disais, réflexe historique aussi, puisqu'on est en mer de Corail, un des hauts lieux de la colonisation japonaise et de la Deuxième Guerre mondiale, avec son lot de fantasmes dans la presse. Vous parlez d'ailleurs d'un ton alarmiste et accusateur dans les médias locaux.
Alors effectivement, j'avais souligné ce ton alarmiste également aussi sur la question de la pêche, puisqu'on a parfois aussi une difficulté véritablement à évaluer la présence de la pêche chinoise. Donc tout ça est assez classique, si je puis dire.
Et dans le cas d'espèce, alors 7 bâtiments civils hein, pour à peu près, si on fait l'addition, 200 millions de dollars, c'est bien ça pour l'instant?
Oui, alors la Chine, bien évidemment, a commencé à accroître son influence dans le Pacifique Sud. Donc on peut, si vous voulez, dater la percée chinoise, entre guillemets, hein, dans le Pacifique Sud au milieu des années 2000, hein, à partir de la mise en place de ce sommet entre la Chine et les États insulaires et archipélagiques du Pacifique Sud. Et donc Vanuatu, avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et puis également le Fidji, sont parmi, j'allais dire, les principaux acteurs de ce rapprochement. Donc la Chine tente de développer effectivement des relations économiques. Alors c'est essentiellement par le biais de l'aide au développement, telle qu'elle est définie par la Chine, que ce rapprochement s'est opéré par le financement des infrastructures et des équipements. Et ensuite, reste à savoir dans quelle mesure cette stratégie-là va être utilisée comme levier pour obtenir un certain nombre d'accords et de coopérations sur le plan militaire.
Alors justement, on va dire un mot des quelques îles et autres états de la région. Là, ce qui est intéressant, c'est la réaction des autorités. Il y a eu un démenti très très formel du ministre des Affaires étrangères de Vanuatu. Personne n'a jamais parlé d'une base militaire chinoise au Vanuatu, mais quand même une réaction un peu embarrassée et des propos clairs de Malcolm Turnbull, premier ministre australien, qui disait que ce serait quand même très préoccupant si ça s'avérait réel, ces allégations.
Ce serait sans doute très préoccupant effectivement pour l'Australie, qui considère le Pacifique Sud comme étant son précaré et qui est on va dire un peu le leader stratégique en alliance avec les États-Unis de la zone. Donc si une telle base venait à voir le jour à Vanuatu, effectivement on serait non pas dans un changement total d'équilibre, puisque ça ne serait, si je puis dire, qu'une base chinoise pour l'heure, mais la question se poserait bien évidemment si celle-ci pourrait en amener d'autres, et bien évidemment si on pourrait s'orienter vers un véritable changement d'équilibre. Là, toute la question est de savoir si, pour l'heure, il ne s'agirait que d'une possibilité pour les navires chinois, militaires chinois, j'entends bien, de se ravitailler et d'accoster dans les ports, ce qui serait bien évidemment, j'allais dire sur le plan stratégique, quelque chose d'un peu différent par rapport à la base réelle avec un statut d'extraterritorialité où vous auriez en permanence des marins chinois. Donc toute, si vous voulez, la difficulté est effectivement de savoir ce qui, entre ces deux situations, est la plus proche de la réalité. Ce qui est sûr, c'est que la projection de la marine chinoise dans le Pacifique Sud est un objectif réel, et les navires militaires chinois sont de plus en plus fréquemment visibles et vus dans la zone, donc leur présence est croissante. Et effectivement, avec cet objectif-là, la marine chinoise a besoin d'avoir des points d'accès pour se ravitailler, et donc il n'est pas, si vous voulez, très surprenant que la Chine cherche à négocier ce type de point d'accès. Donc on l'a avec Vanuatu, mais on a également certaines interrogations avec Fidji, avec laquelle un accord avec un certain nombre de volets sur le plan de coopération en matière de défense a été signé en 2014. Mmh. Et on pourrait rajouter que dans le cadre du grand projet de la route maritime de la soie du 21e siècle, vous avez non seulement cette voie maritime qui relie les côtes chinoises à la Méditerranée, dont on parle beaucoup et qui traverse l'océan Indien, mais vous avez également la voie maritime vers le Pacifique, qui est clairement identifiée comme faisant partie de cette route maritime de la soie du 21e siècle. Et donc on rejoint là aussi, pas seulement un volet économique, mais aussi, sans aucun doute, un volet stratégique.
Et puisqu'on parle justement des intérêts économiques, ce qu'on remarque quand même, c'est qu'il y a une montée en puissance assez lente de la Chine, puisqu'il y a une activité de pêche, par exemple, peu importante finalement dans la région.
Oui, alors ce qu'il faut bien souligner sur le plan économique, ou tout du moins dans les nombreux intérêts économiques que la Chine peut avoir dans le Pacifique Sud, un des intérêts économiques spécifiques propres à la région, c'est bien évidemment une volonté aussi de la part des autorités chinoises de développer l'exploitation des ressources marines dans ce secteur. Donc à la fois les ressources sous-marines minières, avec les terres rares et un certain nombre d'autres minerais sous-marins, et puis les activités de pêche marine, mais aussi d'aquaculture. Et donc, on a une difficulté à évaluer la présence réelle des acteurs économiques chinois dans la zone, notamment sur le plan de la pêche marine, puisque si l'on en croit les statistiques, la Chine ne serait pas le principal, j'allais dire, pêcheur dans la zone. Mais ce qui est important à souligner, c'est qu'effectivement, la présence est de plus en plus forte et que d'après les objectifs qui ont été mis en place à Pékin, sur les dimensions de l'économie marine, sur le développement de la pêche en haute mer, on peut penser qu'on aura, dans les années à venir, un développement des activités économiques marines chinoises de plus en plus importantes dans le Pacifique Sud. Et il y a aussi beaucoup d'accords qui sont passés entre les entreprises de pêche chinoises et les autorités des îles du Pacifique Sud pour également développer les captures. Et ces captures peuvent se faire aussi par le biais d'accords avec les entreprises et les autorités des États de la région. Et donc, on les identifie pas forcément comme étant des captures chinoises, parce qu'elles sont sous une étiquette qui est soit du pays d'accueil, soit un pavillon de complaisance lorsqu'il s'agit d'un navire de pêche hauturière. Donc c'est un peu compliqué à évaluer, mais il est probable que ce Pacifique Sud, tout comme l'Atlantique Sud par exemple, soit une sorte de nouvelle frontière pour la pêche lointaine chinoise dans les années à venir. En tout cas, c'est une affaire qui se doit d'être suivie.
Justement, vous précisez dans votre article que cette relation avec 8 États et îles de la région et de la Chine a un peu changé en 2008 puisqu'elle est devenue un partenariat stratégique. En quoi est-ce qu'il est réellement effectif, puisque pour l'instant on comprend que c'est principalement quand même de l'aide au développement et de la libre circulation de navires, mais pas encore l'accès au port, hein, justement, qui est essentiel quand même.
Oui. Alors le partenariat stratégique, oui, effectivement, il a été décidé en 2014 à l'issue d'une rencontre que Xi Jinping a eue avec donc l'ensemble des chefs d'État des îles et archipels de la zone. C'était d'ailleurs à son retour d'Australie, donc sur son chemin entre l'Australie et la Chine. Il avait effectivement rencontré l'ensemble de ses chefs d'État et donc décidé de rehausser la relation entre la Chine et les États du Pacifique Sud au rang de partenariat stratégique. Donc c'est une appellation assez générale que l'on retrouve dans la diplomatie chinoise. Ça signifie que, effectivement, vous avez un partenariat dans tous les domaines. Après, bien évidemment, en fonction des volets, les choses peuvent être plus ou moins bien approfondies. Donc, au sein de ce partenariat stratégique, vous avez la volonté d'établir des partenariats économiques et de développer les relations commerciales. Donc, celui-ci est clairement, vis-à-vis des États du Pacifique Sud, toujours dominant, si je puis dire, puisque c'est par ce biais que la Chine continue d'accroître son influence dans la zone, avec ce volet économique et toujours par le biais de cette aide au développement. Mais le partenariat stratégique signifie qu'effectivement, il y a aussi l'intégration du volet militaire et même aussi technologique. Et donc, toute la question est de savoir dans quelle mesure, depuis 2014, ce volet-là a été développé. Donc, avec Fidji, il y a un accord de coopération de défense qui a vu le jour. Et maintenant, la question se pose, bien évidemment, avec Vanuatu et tout cet engouement autour de l'accessibilité des ports. Mais encore une fois, pour la Chine et sa marine, une présence plus importante dans le Pacifique Sud nécessite d'avoir accès aux ports. Donc, ces négociations semblent, à mon avis, assez logiques. Alors, il y a une volonté, effectivement, de la Chine de briser ce qu'elle perçoit dans ce côté comme étant une volonté de contrecarrer son influence ou son désir de gagner en influence dans un certain nombre d'espaces. Donc le concept de l'Indo-Pacifique allant de l'Inde vers l'Australie avec le soutien des États-Unis pour justement contrebalancer cette influence chinoise. Et donc la Chine, à mon sens, sa stratégie est surtout d'essayer de briser ce qu'elle perçoit donc comme étant, j'allais dire, un encerclement, ou tout du moins une stratégie qui va à l'encontre de son influence. Maintenant, en matière d'équilibre, on a avec l'Australie, les États-Unis, notamment dans le Pacifique Sud, à mon sens, un bloc qui reste encore solide, et je ne vois pas encore l'influence chinoise en mesure de véritablement, j'allais dire, aller à l'encontre de cette alliance, ou en tout cas de ce socle.
Oui, en tout cas, un secteur qu'on va suivre, ce socle dans lequel est inclus la Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup Sébastien Collin, maître de conférence à l'INALCO. Demain, on reparle de la Chine et États-Unis, rivalité, la très directe sur le plan économique.